On va enfin entrer dans le vif de notre sujet pour ce soir, à savoir Daniel 11. Et on va commencer en lisant tout de suite les choses. Donc le verset 1, c'est un petit peu par rapport à l'épisode précédent, avec l'ange qui lui dit « Maintenant, je m'en vais pour continuer la bataille ». Et ensuite, il dit « Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore trois rois qui régneront sur la Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il aura gagné en force, grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera divisé et brisé aux quatre coins du ciel. » Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Le roi du sud deviendra fort, mais un de ses chefs plus fort que lui sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du sud s'unira au roi du nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera céder avec ceux qui l'aura amené, avec son père et avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de même racine qu'elle se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du sud, mais il devra revenir dans son territoire. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du sud. Le roi du sud s'irritera, il sortira et combattra contre le roi du nord. Il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière et le cœur du roi du sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines de milliers de victimes, mais il ne triomphera pas. En effet, le roi du Nord reviendra et mobilisera une grande troupe plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents issus de ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision et ils trébucheront. Le roi du Nord viendra, il construira des remblais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du Sud et l'élite du roi ne résisteront pas, elles n'en auront pas la force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tous ceux qui tombera sous sa main. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Il s'orientera vers les îles et en prendra beaucoup, mais un chef militaire mettra fin à la honte qu'il voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, où il trébuchera et tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Prions. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage. Aide-nous à démêler ce plat de spaghettis, Seigneur. Et montre-nous ce que tu veux qu'on voie dans ce passage et comment on doit le comprendre, Seigneur. Amen. Amen. Il est bien avant ce passage. Donc, je vous ai donné différents documents et j'espère que ça va nous aider dans cette petite étude. On va voir dans la fin du chapitre 11 la suite de ces guerres avec Antiochus 4 qui va persécuter notamment Jérusalem. Mais avant, on va regarder tous les petits épisodes qui ont rythmé ce qu'on appelle les guerres de Syrie. Alors, dans le verset 2, il y aura encore trois rois qui régneront sur la Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce ou de Yavan, dans certaines traductions, qui était le mot pour signifier la Grèce. Donc, ces trois rois sont trois rois perses de l'empire médo-persique, à savoir Cyrus, deux rois dont on n'a pas parlé, Cambyse et Darius I, ou Hystape. Et ensuite, le quatrième roi dont il est question, qui amasse plus de richesses que tous les autres, c'est Xerxès. Il est aussi appelé Assuérus dans le livre d'Esther, pour ceux qui ont étudié le livre d'Esther. Et il va mener une grande campagne militaire contre la Grèce autour des années 480 avant Jésus-Christ. Et c'est ce dont il est question ici par rapport à ce soulèvement contre la Grèce ou contre Yavan. C'est les épisodes qu'on connaît avec ce dont on a déjà parlé, avec les différents empires, les différents pouvoirs, les Spartiates, et puis il y a certaines batailles très connues, dont une bataille navale où les Grecs vont battre la flotte de Xerxès et le mettre en déroute. Et donc a priori c'est de ce roi dont il est question. Ensuite, le verset 3 et 4. « Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux quatre coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. » Ici, il s'agit... Le roi vaillant qui se dresse, c'est Alexandre le Grand, qui domine avec une grande puissance et fait ce qu'il veut. On a dit que Alexandre le Grand n'a jamais été vaincu en bataille. Il n'a jamais perdu une bataille. Il a été blessé pendant des batailles, mais militairement, il a fait tout ce qu'il voulait. Il a toujours avancé. Et la seule raison pour laquelle il n'a pas continué ses conquêtes dans la direction de l'Inde, lui voulait aller jusqu'au Gange, mais c'est que ses troupes en avaient marre. Ils avaient envie de rentrer à la maison, donc il a dit « bon, ok, je rentre ». Mais sinon, ils auraient continué, il aurait pu aller jusque... Enfin, rien ne l'arrêtait. Et sa mort qui est arrivée soudainement, et on en avait parlé on ne sait pas s'il a été empoisonné, c'était un problème d'alcool... d'ennui, parce qu'il avait fini ses petites batailles. Mais son royaume, à sa mort, va se retrouver dans une situation difficile parce que il n'a pas de succession vraiment valable. Sa femme, Roxane, est enceinte. Donc son fils est un petit peu jeune. Et il a un fils... illégitime, et il y a un frère, mais qui a des problèmes mentaux, qui n'est pas très utile. Et donc, il y a une guerre, une période qui est appelée la guerre des diadoques. Diadoque est un terme grec pour signifier les successeurs, ou les... les successeurs. Et il y aura une douzaine de personnes qui, pendant... à peu près 40 ans, vont lutter. Il y aura des batailles, des luttes de pouvoir, des différentes guerres, des alliances, pour essayer de prendre le contrôle plus ou moins de l'empire qui reste après Alexandre le Grand. Et la division finale, enfin celui qui, un petit peu, le statu quo qui arrive à la fin de ses 40 ans, c'est la carte que je vous ai donnée. C'est le dernier document, je crois. Et donc, elle est divisée en quatre parties. Il y a une première partie en Grèce, la Grèce telle qu'on la connaît nous, qui est donnée à un certain Cassandre. Ensuite, la Thrace et l'Asie mineure, la Turquie, un petit peu d'aujourd'hui. et donner un Lysimaque. Ensuite, l'Égypte et la Palestine, ce qu'on voit au sud, et une partie de la Turquie là qui est enfoncée, revient à un certain Ptolémée. Et ensuite, la grande partie qui s'étend sur l'Irak, l'Iran, et puis Pakistan, Afghanistan, et tous les territoires qui s'étendent vraiment loin, est donné à Séleucos. Et donc, l'attention et ce dont il est question dans Daniel 11, là, dans les chapitres 5 à 45. Quoi ? Dans les versets 5 à 45, c'est des batailles qui vont avoir lieu entre le royaume des Ptolémées au sud, l'Égypte, et le royaume qui se trouve au nord, à savoir la Séleucie. Et l'attention va se tourner vers la confrontation entre ces deux royaumes, parce que coincé au milieu de ces deux royaumes, pile poil là où passent toutes les armées, quand ils veulent aller se combattre les uns les autres, se trouve la Palestine et se trouve Jérusalem et se trouve le territoire saint. Et donc, tout le passage qu'on voit ici, c'est la suite de l'histoire, à savoir une fois que le royaume a été divisé, le royaume du sud, comme il est appelé dans le texte de Daniel, c'est-à-dire les Ptolémées et les Séleucides, vont se livrer plusieurs guerres et vont pas arrêter de se combattre l'un l'autre, de descendre, de monter, d'attaquer, de revenir, d'essayer de se marier, de faire des alliances, de voir. Et c'est tout le petit charabia qu'on voit dans le chapitre 11, là, dans les versets qu'on a lus. C'est ce qu'on appelle les guerres de Syrie. Encore une fois, vous pouvez vous faire du Wikipédia. Il y en a autant que vous voulez. Des détails. J'ai trouvé un site web qui s'appelle Antique Forever en français, qui est génial, qui a des choses très détaillées sur chacun des différents rois, des différentes dynasties de l'époque, sur les différentes guerres, sur les différentes batailles, qui a plein de détails, c'est génial. Et antique avec un K. C'est comme des supporters de clubs de foot, mais antique forever. K forever. C'est un peu plus détaillé. C'est visiblement quelqu'un qui a quand même beaucoup donné. Il met la liste de références de livres et il y a un paquet de livres. Donc, même avec un nom aussi antique forever. C'est en Allemagne, il y a les magasins 18 forever ou je sais pas quoi. Les magasins de vêtements. Bref, c'est. Et donc, on va regarder, on va essayer de un petit peu comprendre. Et c'est le tableau que je vous ai donné. Les différents épisodes de cette guerre entre les Ptolémées au sud et les Séleucides au nord. Vous voyez, j'ai imprimé des trucs de Wikipédia. Ça, c'est des trucs d'Antique Forever. Il y a même des petites pièces de monnaie, des statues. Et donc, en remarque, juste avant de passer, on voit encore une fois le détail. Verset 4, son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Les descendants d'Alexandre n'ont jamais rien eu, si ce n'est se faire assassiner pour éviter de gêner. Et on va regarder encore la suite, mais vraiment le détail, il est phénoménal là, quand on regarde historiquement là. Donc, regardons le verset 5. Le roi du sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Et donc ici, on voit dans le tableau qu'il nous parle d'un certain Ptolémée Lagos qui a fondé la dynastie qui règne sur l'Égypte. C'est le premier. Mais l'un de ses chefs, Nicator, est plus puissant que lui et va établir sa domination jusqu'à l'Indus. Donc, va vraiment étendre et va prendre en fait une partie, on va dire, de l'empire qui revenait au nord, en fait. Ensuite, verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde, mais elle ne conservera pas la force de son bras, elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée. Donc, le roi du Midi, c'est le roi du Sud, donc c'est les Ptolémées. Le roi du Septentrion, c'est le roi du Nord. Donc, les Séleucides. Et donc là, c'est quelques années plus tard, c'est Antiochus II qui règne de 260 à 247 avant Jésus-Christ, qui va épouser la princesse Bérénice, qui était la fille de Ptolémée II. Et il y a un épisode assez horrible avec cette Bérénice, parce qu'en fait, Antiochus, qui s'est marié avec donc Bérénice, par alliance, pour arranger les choses, je les détaille quelque part ici, le Antiochus, en fait, avait répudié sa femme, qui s'appelait Laodice, ou Laodicée, pour pouvoir se marier avec Bérénice, pour assurer une paix, une stabilité dans la région. Il s'est dit, je vais virer ma femme et je vais me marier avec la fille du gars de l'autre roi. Comme ça, on est tranquille, ça va. Et en fait, ça n'a pas trop plu à Laodicée, qui, pour des raisons ou d'autres, est revenue. Elle a empoisonné son mari, d'abord. Donc, lui est mort en premier lieu. Et ensuite, plus tard, elle a aussi empoisonné Bérénice et le fils de celle-ci. Donc, des conséquences assez chouettes. Et c'est ce qu'on voit à verset 6, mais elle ne tiendra pas le coup. Et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'ont emmenée, avec son père et celui qui aura été son soutien à cette époque-là.
Ça, c'est Bérénice ou c'est Laodicée?
Bérénice. Verset 7. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, c'est-à-dire le roi du Nord, et il en disposera à son gré. Il se rendra puissant. Donc ça, c'est Ptolémée III, qui était le frère de Bérénice, qui venge sa sœur et qui conquiert la Syrie. Donc lui, il vient du sud et il monte vers le nord pour conquérir. Et il prend notamment la forteresse et le port d'Antioche, qui était un petit peu une ville forte, puisque tous les rois là s'appelaient Antiochus. Donc on comprend bien que c'était une ville qui était importante pour eux. Ensuite, verset 8, il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Et donc ce Ptolémée III, une fois avoir battu le royaume du Nord, va prendre le trésor et va prendre des statues perses, en fait, des choses qui avaient été dérobées pendant les luttes pour la succession d'Alexandre. C'est ce qui est indiqué dans le tableau.
Les talents, là, on parle des pièces, c'est ça ?
Les talents, c'était la monnaie. Oui, effectivement. C'était la monnaie. Ensuite, et celui-ci, le roi du Septentrion, marchera contre le roi du Midi et reviendra dans son pays. Et donc on voit dans le tableau en l'an 240 avant Jésus-Christ, Célestius Callinicus, qui est Célestius II, qui envahit l'Égypte, mais qui sera défait parce que sa flotte est détruite par une tempête, et donc il rebrousse chemin et revient chez lui. Et ça, c'est... Alors, il y a 6 guerres documentées par les historiens, et donc c'est des différents épisodes de ces différentes guerres. Mais en tout, il y a 6 épisodes de guerre entre ces deux nations. Je vous donnerai peut-être les dates si ça vous intéresse après. Verset 10. Ses fils se mettront en campagne, l'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Donc c'est ce Célestius Callinicus qui a 2 fils, Célestius III, ou Sauter, il avait un surnom, et Antiochus le Grand, ou Antiochus III, qui s'attaque aux provinces égyptiennes. Et en 218, Antiochus conquiert la forteresse de Gaza. Verset 11. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Donc le roi du Sud attaque encore le roi du Nord. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Et ça, c'est en l'an 217, Ptolémée Philopater, ou Ptolémée IV, qui rassemble une immense armée pour attaquer Antiochus le Grand et qui va avoir la victoire. Ensuite, verset 12. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Donc, ce Ptolémée Philopater remporte une grande bataille à Raphia, mais on nous dit qu'il ne sait pas exploiter sa victoire, car il se livre à une vie de débauche, et donc il ne triomphe pas. Verset 13. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Et donc ça, c'est Antiochus le Grand qui rassemble encore une plus grande armée et qui repart à l'attaque vers le sud. Verset 14. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Donc, Antiochus s'allie avec Philippe, roi de Macédoine, et il y a une rébellion en Égypte et des Juifs qui sont alors sous le contrôle du roi du Sud qui vont essayer de soutenir le roi du Nord. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'ils vont succomber à leur tour, les violents parmi ton peuple. Versets 15 et 16. Le roi du Septentrion s'avancera, les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Et donc ça, c'est Antiochus le Grand qui affronte Ptolémée Philopater en Israël, le plus beau des pays. Verset 17, le roi du Septentrion se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Ça, c'est Antiochus le Grand, donc qui est au nord, qui a combattu contre Ptolémée Philopater et qui se dit « Je vais donner ma fille en mariage avec le roi, le fils de Philopater. » Et ensuite, elle va me servir d'espion pour pouvoir le tromper et le défaire et combattre et finalement remporter la bataille en quelque sorte sur le royaume du Sud. Et en fait, historiquement, la fille de Antiochus le Grand, elle se marie, mais une fois mariée, elle retourne sa veste contre son père et elle refuse de collaborer. Et donc, c'est ce qui est marqué verset 17, « Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. » Et ensuite, le verset 18 et 19, le roi du Septentrion, donc le roi du Nord, tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il s'en chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Donc Antiochus se décide, comme il a sa petite manigance avec sa fille tombe à l'eau, il se décide à aller conquérir des îles. Mais les Romains qui commencent à prendre place à l'ouest le battent sévèrement et lui imposent des taxes. Et ce sera un peu la fin. Alors ce personnage aussi, alors est-ce que c'est marqué là ? D'accord, on ne l'a pas ici, mais en fait le verset 20, donc lui meurt de manière, Antiochus le Grand meurt après sa défaite contre les Romains, son fils lui succède, et celui-ci, c'est ce qui est indiqué au verset 20, donc on n'est plus dans le tableau, celui-ci fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, et il sera brisé en quelques jours. Et ce sera ni par la colère, ni par la guerre. Et donc, en fait, ça, c'est donc le fils d'Antiochus le Grand a un intendant qui s'appelle... c'est Héliodore qui va être envoyé à Jérusalem pour s'emparer des trésors du temple, quelque sorte. Suite à la défaite contre les Romains, ils avaient de telles taxes imposées par les Romains qu'ils allaient un peu partout dans leur royaume prendre tout ce qu'ils pouvaient pour payer les taxes et pour survivre à ce que leur imposait Rome. Et une de leurs idées, c'était d'aller à Jérusalem et de prendre tout ce qui restait dans le temple pour avoir des sous. Donc cet Héliodore, c'est celui dont il est question ici, qui est envoyé, qui est un oppresseur dans la plus belle partie du royaume. Cet Héliodore va empoisonner le fils d'Antiochus, donc celui qu'il avait envoyé, pour essayer de prendre sa place. Et suite à cet épisode-là, on arrive au personnage qui nous intéresse un peu plus, qui s'appelle Antiochus. Et Antiochus va assassiner Héliodore, et on va regarder un petit peu plus en détail, mais... Antiochus, ça va être un petit peu le dernier et va combattre la dernière guerre entre ces deux royaumes et va notamment persécuter les Juifs et c'est lui qui est une préfiguration de l'Antéchrist. Et donc c'est pour ça qu'on va un petit peu plus s'attarder sur lui. Dans le tableau que je vous ai donné, on a aussi il y a un tableau, une explication là, schématique comme ça qui me donne cette partie-là du livre de Daniel, dans son interprétation et sa compréhension par les historiens, ils n'ont rien à dire. La seule chose qu'ils arrivent à dire, c'est que c'est arrivé plus tard. Les détails sont tellement frappants dans leur exactitude au niveau du déroulement que les gens... Enfin, il y a vraiment rien. Et là, on arrive dans des époques, on a un petit peu plus de mal sur peut-être les Babyloniens, les Perses, on a moins de choses qui restent dans les écrits de l'histoire. Mais ces époques-là, on commence à avoir vraiment des quantités de données écrites qui permettent de corroborer toutes ces choses. On a notamment, je crois que c'est, enfin, je sais plus si c'est Ptolémée 3 ou 4 qui est celui qui a fait construire le phare d'Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie. C'est à ces moments-là, enfin, il commence vraiment à avoir une érudition complète. Je crois que c'est le même roi qui a fait construire ces choses Alexandrie, m'a aussi fait écrire une histoire une histoire du monde antique ou quelque chose en 30 volumes. Enfin, c'est des trucs qui commencent à, on commence à avoir vraiment beaucoup beaucoup de données historiques sur ces choses-là, et il n'y a pas vraiment de contestation possible à part de dire bon bah ça a été écrit après le coup quoi. J'ai regardé, et même quand on regarde vraiment là, encore quand je regardais certains autres détails, sur les Babyloniens ou les Perses, il y avait certaines contestations où on voyait un petit peu les... Par exemple, quand je regarde dans Wikipédia, c'est pas forcément des gens qui sont croyants, quoi. C'est des gens qui ont plutôt un intérêt historique par rapport à la chose, qui vont mettre des références. Et là, il y avait certains débats sur peut-être les dates, sur certaines choses, quoique déjà minimes. Mais quand on arrive à ces choses-là, vous prenez... ce qui est raconté là dans le tableau, à droite, c'est exactement ce qui est marqué dans les sites que je vous raconte là. Enfin, et ça, ce n'est pas des chrétiens qui sont là avec un agenda pour montrer quelque chose, quoi. Là, c'est des gens qui sont, ils sont intéressés par l'histoire, par la Grèce antique, par les épisodes. Ça, c'est des choses aussi qu'on étudie quand on est au collège. On ne s'attarde pas forcément trop sur ces épisodes-là, parce qu'on préfère vraiment se concentrer sur l'Égypte et ensuite sauter tout de suite à la Grèce, plus instaurée avec la démocratie et tout, parce qu'on a l'agenda de montrer que la démocratie, c'est génial et qu'on veut y passer 12 ans, que la philosophie, c'est trop bien, etc., etc. Et du coup, on saute toutes ces périodes intermédiaires, on saute les Babyloniens, on saute les Perses, et on ne parle pas beaucoup de ces guerres, mais elles sont mentionnées. Vous pouvez prendre des livres d'histoire des collégiens, et normalement, dans les livres d'histoire, il y aura ces guerres de Syrie, ces guerres du Diadoque, c'est des choses qui sont documentées et qui sont acceptées comme de l'histoire. Il y a plus du tout. On arrive vraiment dans des époques où il n'y a pas de contestation à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai rien vu en tout cas dans tous les sites que j'ai vus où les gens disent c'est un petit peu bizarre, ou on interprète ça de manière différente. Donc, on va regarder Antiochus 4, qui est donc un type ou une préfiguration de l'Antéchrist dans la deuxième partie du chapitre. Alors Antiochus 4, on va regarder un petit peu en détail pour voir, parce que son règne et le fait qu'il devienne le roi, il n'était pas vraiment légitime. Ce n'était pas à lui de prendre la position de royaume, et on va voir en détail, on va regarder. Mais avant, je voulais lire le passage qui le décrit. Un homme méprisé, verset 21, un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie, il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera les plans contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne résistera pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal, et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance Sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé, il marchera de nouveau contre le sud, mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il reboussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance Sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'Alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée, à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques hommes, des hommes perspicaces, trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. On s'arrête là pour l'instant. Donc, lui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il, normalement, il n'est pas l'héritier du trône. Il était le frère de Séleucos IV, qui était son frère. c'est-à-dire Philopator. Il est génial. Ils en ont un nom vraiment bien. Et en fait, ce roi qui est assassiné, il avait un fils. Mais son fils était très jeune. Et normalement, la royauté devait revenir à ce fils. Le fils de Séleucos IV. Antiochus IV, qui était son frère, le frère du roi qui a été assassiné. Donc, il fait mine. Il dit, je vais assurer la gouvernance pour le gamin jusqu'à ce qu'il soit en âge de régner. Je vais m'occuper de l'intendance, en quelque sorte. Ce n'est pas à moi de prendre le trône, mais je vais juste rester là. Et quand il sera assez âgé, on le laissera régner. Mais en 170, donc c'est environ 5 ans après la mort du roi, il fait assassiner ce petit-fils de son frère, en fait, donc son neveu, pour pouvoir se mettre en place sur le royaume. Et c'est sous lui que va commencer la sixième guerre de Syrie, donc entre le sud, encore une fois, et le nord, et c'est ce qui est décrit dans ces passages entre 21 et même 45. Et en fait, ce sont les rois du sud qui l'attaquent. Donc c'est les Ptolémées qui l'attaquent pour essayer de lui reprendre un territoire qui correspond à la Liban d'aujourd'hui, qui essaie de profiter du changement de pouvoir pour reprendre du territoire. Et donc, voyons voir dans les passages. Donc on voit verset 21, un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Donc c'est bien ce qu'il a fait. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Verset 22 décrive cette attaque qui vient du sud, et ensuite il en profite pour lancer une attaque en réponse. Donc l'empire d'Égypte l'attaque, lui il les bat, et puis il se dit, je vais en profiter pour repartir vers le sud en attaque pour reprendre leur territoire en quelque sorte. Et il va battre, verset 23-24 jusqu'à 25 même. Et en fait, il va gagner contre les Ptolémées au sud. Et par peur des Romains, qui étaient dépendants pour leur blé et une partie de leur nourriture de l'Égypte, qui était une terre très fertile de l'époque, ils décident, une fois avoir battu le roi du sud, de le garder en place en quelque sorte comme un vassal, comme un gars qui lui est soumis, mais il le laisse en place pour pas trop déranger les Romains, pour pas que les Romains se mettent en guerre contre lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce roi qu'il a installé pour le servir est désavoué par son peuple. En Égypte, en fait, ils disent, bon, bah, t'es un faux roi, donc on va en mettre un autre. Donc, ça énerve Antiochus, qui lance une deuxième attaque. C'est 29, oui. Alors, 28, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de la première attaque, quand il descend, en remontant depuis l'Égypte, il y a une révolte qui a lieu à Jérusalem. Et donc il va, un petit peu en remontant, il va soumettre la rébellion. Donc c'est un premier épisode où c'est marqué verset 28. Et ensuite, donc le 29, il re-attaque contre l'Empire du Sud. Et il est dit, verset 29, mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'Ouest, ou de Kittim, dans certains passages, avanceront contre lui, découragé, il reboussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance Sainte. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que quand il essaie de réattaquer au sud, les Romains interviennent. Parce que eux, ça leur pose un problème. Comme on a dit, ils étaient dépendants pour leur nourriture, pour certains ravitaillements, pour certaines raisons, ils étaient dépendants des Égyptiens. Et donc, ils interviennent avec une flotte qui vient depuis Chypre, en fait, qui était leur territoire. Et c'est ce mot Kittim, en fait, a priori, qui parle de Chypre. Et c'est un certain Gaius Popilius Laenas qui va bloquer Antiochus et qui lui dit... Alors, il y a un passage qui est repris dans beaucoup des textes qui parlent de cet épisode où cet ambassadeur de Rome, lorsqu'il lui dit « Écoute, nous, on ne veut plus que tu attaques l'Égypte », et il trace un cercle dans le sable autour d'Antiochus et lui dit « Je t'interdis de sortir de ce cercle avant de m'avoir donné une réponse. » En gros, tu réfléchis bien à ta réponse avant de faire quoi que ce soit. Et Antiochus choisit d'obéir parce qu'il sait bien que l'Empire romain qui est naissant à cette époque-là et qui commence à prendre de la puissance ne ferait qu'une bouchée de lui. Ils le feront, mais un peu plus tard. Pas de lui, mais de ses successeurs. Et donc, il se retire, il repart. Mais forcément humilié et enragé par le fait de s'être fait contrarier, il est en train de remonter et il passe par Jérusalem, où là, il se lâche. Et on en avait parlé dans certains des textes.
Il n'est pas arrêté à l'aller avant d'attaquer de nouveau l'Empire du Sud. Tu as déjà parlé de la révolte à Jérusalem.
Ouais, en fait, il avait une première moment où il était remonté.
Avant d'aller et en remontant. À l'aller, au retour.
Non, en fait, il a eu une première attaque contre l'Égypte et en revenant, il avait déjà un petit peu, il avait dû taper sur certains juifs pour les calmer en remontant. Mais c'était pas le plus, c'est ce qui est indiqué verset 28. Ensuite, il remonte chez lui, puis à les Égyptiens qui refusent son faux roi et donc il re-attaque. Il se fait contrarier par les Romains et là, en revenant, c'est là qu'il y a cet épisode où il pille la ville, il installe un autel d'un faux dieu dans le temple, il massacre les fidèles, il interdit la religion juive, il ordonne même d'offrir des porcs en holocauste dans le temple, il interdit la circoncision, on estime qu'il a tué environ 40 ou 50 000 personnes en 3 jours, ils en ont enfermé entre 50 et 100 000 autres. Pour les vendre en esclavage. Et c'est suite à cet épisode-là que les Juifs commencent une révolte sous la direction d'une famille qui s'appelle les Maccabées. Et eux, donc, ils vont mener une sorte de guérilla contre Antiochus IV, mais vraiment une guérilla, parce qu'ils savent en fait qu'ils n'ont pas la puissance militaire d'affronter en direct dans des batailles. Ce royaume. Et donc, ils se retirent un petit peu dans le désert et ils vont mener des actions, actions de guérilla pour profiter de leur avantage du terrain et vont petit à petit les battre et les faire se retirer. Et en fait, Antiochus IV va avoir des problèmes avec ses territoires à l'Orient. Il y a les Parthes et les Arméniens les Arméniens se révoltent et les Parthes, qui étaient une peuplade de l'Est, commencent à attaquer dans sa direction. Et donc, il va être obligé d'un petit peu laisser les choses de côté et partir là-bas. Et il va mourir une mort assez subite, dont on n'est pas sûr si c'est encore une fois un empoisonnement ou quel est le problème. À Babylone, en fait, qui faisait partie de son territoire à cette époque-là. Donc voilà pour ce personnage. Et on peut voir les parallèles. On va lire la suite. Et on va regarder les comparaisons avec l'Antéchrist et la fin des temps la semaine prochaine. en regardant le verset 12, je vais avoir des documents un petit peu plus précis pour qu'on voit les parallèles et qu'on... Un peu comme ceux que je vous ai donnés pour voir un petit peu plus. J'ai pensé y arriver, mais je n'y suis pas arrivé. Donc, on va lire la fin du verset 11, faire quelques remarques et puis on regardera la signification par rapport à la fin des temps et l'antéchrist la semaine prochaine. Donc, verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra, il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes. Il ne prêtera attention à aucun Dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le Dieu des forteresses qui l'honorera sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup et leur distribuera des terres en guise de récompense. Au moment de la fin, le roi du sud l'affrontera et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers ainsi que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera. Il pénétrera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront. Mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir, Édom, Moab et les principaux des Ammonites. Il étendra son pouvoir sur divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les biens précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront à sa suite. Les nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront et il partira dans une grande colère, détruire et exterminer beaucoup d'hommes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. Ce passage-là est à partir du verset 36 et jusqu'à la fin du chapitre est un passage qui, pour beaucoup de commentateurs, commence à parler plus directement de l'antéchrist et d'événements qui arriveront à la fin des temps. On va, comme j'ai dit, regarder plus en détail, mais on va déjà regarder un petit peu certains des commentaires pour faire le parallèle avec des choses qui se passent sous Antiochus. Juste vite fait pour qu'on finisse pas trop tard. Verset 38, c'est le dieu des forteresses qui l'honorera sur son piédestal. Certains commentateurs pensent que c'est le culte qu'il rend à Jupiter. Dont il veut rendre le culte obligatoire dans son territoire. Ensuite, donc il instaure ses nouveaux rituels. Et ensuite, au verset 40, on a le roi du sud qui l'affronte. Et donc, cet épisode, il n'y a qu'un seul historien qui fait mention d'une autre bataille entre le royaume du sud et le royaume du nord, qui s'appelle Porphyre. Et a priori, c'est, on va dire, une dernière, après les épisodes qu'on a vus, un dernier roi qui s'appelle Philométor, un des rois sur l'Égypte, va essayer encore une fois d'attaquer vers le nord. Et Antiochus va déclencher une dernière attaque vers le sud. Il va envahir l'Égypte avec une force considérable. C'est a priori ce dont il s'agit ici. Et ensuite, on voit le verset 44, des nouvelles de l'ouest et du nord le troubleront et il partira. Et a priori, ça, c'est ce dont je vous ai parlé, à savoir les Parthes et les Arméniens qui se révoltaient et qui l'attaquaient. Donc c'est le nord et l'Orient, et qui vont le faire partir en urgence. Et ensuite, il y a ce passage, verset 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers. Alors là, il pense que c'est entre la mer Méditerranée et la mer Morte, et qu'il aurait fait halte en retournant vers pour s'occuper des Parthes et des Arméniens. Et c'est un petit peu plus tard qu'il va mourir de manière assez subite. Voilà. Et donc tout ce passage entre 21 et 45, mais plus précisément entre 36 et 45, présente énormément de parallèles avec les descriptions qu'on a de l'Antéchrist. Et donc ça illustre un petit peu un des principes par rapport à l'interprétation et la compréhension de la prophétie, à savoir qu'il peut, quand il y a des prophéties dans la Bible, il y a un premier accomplissement de la prophétie à un moment proche dans l'histoire et qu'il y a un deuxième accomplissement plus loin dans l'histoire qui est... Et le premier accomplissement est une préfiguration de ce qui va arriver à la fin. C'était intéressant, juste pour clore, s'il n'y a pas d'autres questions de détail. Mais juste, on regarde et on se dit qu'on établit un petit peu dans ces prophéties et dans l'histoire un système un petit peu. On essaie d'établir des dates, des parallèles, de dire bon, ben, il y a une première préfiguration et ensuite il y a l'accomplissement plus tard. Et on se dit, mais... Et je me disais, mais c'est... On a un Dieu qui a créé l'univers. Et quand, par exemple, les scientifiques cherchent dans l'univers à expliquer des choses, à expliquer comment les choses fonctionnent, ils cherchent des systèmes et des modèles pour expliquer. Et donc, d'une certaine manière, on se dit... On se dit pourquoi pas aussi dans l'histoire de l'homme et dans la manière dont Dieu laisse se dérouler des choses. On peut chercher aussi à trouver, à expliquer ces choses-là et à voir les parallèles et les significations et le système en quelque sorte que Dieu a établi aussi dans la prophétie et dans l'histoire des hommes. Et donc, on va regarder la semaine prochaine les parallèles avec la fin des temps, l'Antéchrist. Et la défaite de l'Antéchrist et l'accomplissement un petit peu, la fin de l'histoire des hommes et les promesses qu'il nous fait. Voilà.